There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2012 et c'est l'épisode numéro 84. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui vous permet de comprendre l'actualité tech, même si elle est compliquée. On la met en boule et puis on la démêle, on l'aplatit, on la passe au fer à repasser et comme ça elle est lisible et propre et même un petit peu chaude pour se chauffer les mains quand il fait froid. Magnifique, non?
Chaque semaine, tu trouves une nouvelle façon de décrire l'émission. À chaque fois que j'écoute, je me dis, alors, comment il va la décrire cette fois-ci? Tu trouves toujours quelque chose de mignon à dire.
J'essaye. Je suis donc Patrick Béja et la douce voix que vous entendez est celle de Yann Allais, mon camarade de longue date dans le Rendez-vous Tech. L'autre voix que vous n'entendez pas encore, c'est Lionel de Feu Techno IT. Je sais, il faut qu'on trouve un autre moyen de décrire maintenant Lionel.
Ah ouais, il va falloir trouver un autre moyen. Je sais pas, j'aime pas leur passage par exemple.
Tu n'aimes pas leur passage? D'accord, Lionel qui n'aime pas leur passage, fais gaffe, ça peut te suivre longtemps une description comme ça. Donc Lionel est avec nous aussi. Malheureusement, Jeff n'est pas là parce que j'ai changé la date de l'enregistrement à la dernière minute. J'étais en voyage en Normandie, comme je l'expliquais à la chatroom il y a quelques minutes avant de commencer l'émission. J'étais en voyage en Normandie, donc lundi, je n'ai pas pu la faire. Lundi, c'est le jour où on enregistre généralement, donc on est mardi. La chatroom est là quand même sur notre nouvelle page nowatch.net/live qui est live, qui est toute belle et pleine de discussions joyeuses. Donc, si vous pouvez regarder l'émission en live, donc que ce soit le Rendez-vous Tech ou d'autres émissions, c'est sur nowatch.net/live. Et c'est aussi grâce à Ustream qui nous aide à diffuser cette émission en direct quand on l'enregistre et on les en remercie. Bon, j'espère que tout le monde va bien. On a eu... alors, pendant les deux semaines qui nous ont séparés de la dernière émission, c'était une collection de petites news pas trop super révolutionnaires. Enfin, révolutionnaires, n'exagérons rien, mais disons que depuis quelques jours, il y a eu quelques infos plutôt détonnantes dans le monde du tech. Et on va se lancer immédiatement. On va notamment parler de Facebook et Instagram, le Project Glass de Google, de milliards qui volent partout, notamment Microsoft qui les donne à AOL, etc., etc. On aura d'autres choses dont on voudra parler. Avant ça, je vais quand même demander à mes camarades s'ils vont bien, Yann et Lionel. Vous êtes
ben
en
écoute,
forme
moi pas trop. J'ai une crève incroyable. Je crois que ça s'endort à ma voix. Mais sinon, non, ça va. Il fait très beau en ce moment à Montréal, même si les températures ont du mal à remonter. C'est assez bizarre parce qu'il y a un mois, il faisait 30 degrés et maintenant il en fait 4.
Ah, mais c'est donc, mondial, ouais. Enfin, ouais, nous, ouais. C'est moins d'amplitude, mais il faisait 25 et là, il fait 12, donc effectivement.
Ouais, voilà. Donc, mais sinon, ça va très très bien. Okay. Et je suis très content d'être avec vous et la chatroom ce soir.
Lionel, puisqu'on est au rayon météo, t'es sur Paris aussi, toi?
Alors, je vis ma vie entre Reims et Paris, en fait. D'accord. On n'est pas okay. Très très loin. Mais c'est
et
vrai
il fait quelle température à Reims, alors?
C'est sensiblement équivalent à Paris. D'accord. Bon, pour ma part, je me porte bien, je suis pas encore malade, je touche du bois et je suis très content d'être avec vous.
Bon, je peux vous dire que sur les falaises d'Étretat, il faisait pas chaud ce week-end. Bon, écoutez, suffisamment parlé de météo, on va donc se lancer dans la grosse news qui nous a explosé au cerveau il y a à peu près 24 heures. C'est l'information que Facebook a acheté Instagram pour, tenez-vous bien, Vous dites un montant qui vous aurait paru raisonnable.
Pour Instagram, moi, j'aurais dit 10 dollars, mais bon.
10 dollars? Ok.
Ça n'engage que moi.
Lionel, ton prix pour Instagram?
Oh, écoute, non, j'aurais dit un petit peu plus que Yann, mais certainement pas le montant que tu veux annoncer.
Effectivement, ils ont dépensé 1 milliard de dollars. On va le rappeler un petit historique rapide. Instagram, c'est un réseau social de partage de photos exclusivement mobile. Il y a une petite composante web, mais uniquement pour pouvoir visionner les photos quand on reçoit un lien sur un réseau social, sur son ordinateur. Et c'est un réseau qui a été lancé il y a à peine 2 ans et qui a connu un succès fulgurant. Il a été lancé d'abord sur iPhone et pendant très longtemps, il était uniquement sur iPhone. Il a été lancé sur Android il y a quelques jours à peine. Ça doit faire une semaine au moment où on enregistre cette émission. Et donc, effectivement, il a été vendu 1 milliard de dollars. Je crois qu'il a à peu près 30 millions d'utilisateurs enregistrés.
Ouais.
Donc, c'est loin d'être négligeable, mais c'est pas non plus parmi, disons que c'est un réseau social, si on peut l'appeler comme ça, extrêmement populaire, mais c'est pas non plus le plus populaire d'entre tous. On sait notamment que Pinterest, dont on a déjà parlé ici, et selon certaines estimations, le 3e réseau social le plus populaire après Facebook et Twitter. Dans le lot des 5 premiers, il doit y avoir LinkedIn, peut-être d'autres choses comme ça. Mais bon, Instagram est pas forcément très très loin, mais il est pas dans le peloton de tête des 3 premiers en tout cas. C'est ce milliard de dollars, la vente au milliard de dollars a fait beaucoup parler d'elle parce que il y a quelques jours à peine, Instagram a reçu une autre série de d'investissements qui portait sa valeur théorique à 500 millions de dollars. C'est-à-dire que pour expliquer la manière dont ça fonctionne, par exemple, Instagram a été fondé par 2 personnes, je crois qu'ils ont 12 personnes ou en tout cas jusqu'à il y a pas très longtemps, ils étaient 12 employés. Donc fondé par 2 personnes, disons qu'ils sont 12 et qu'il y a deux actionnaires qui ont chacun des parts qui valent une somme indéterminée. Ils veulent avoir un petit peu plus d'argent. Ils vont vendre 10% des parts à un fonds d'investissement, par exemple, ou à une banque ou à n'importe qui, pour 50 millions de dollars. Donc 10% pour 50 millions de dollars, si quelqu'un accepte de payer 50 millions de dollars pour 10% des parts, ça veut dire que la société vaut, en théorie, 500 millions de dollars, c'est l'évaluation de sa valeur totale. Et c'est la valeur à laquelle elle était il y a quelques jours à peine, puisque un investissement supplémentaire l'avait mis à peu près à cette valeur. Et quelques jours après, on apprend que Facebook l'achète pour 1 milliard. Donc évidemment, ça fait couler énormément d'encre et beaucoup de gens se sont demandé ce qui s'est passé, pourquoi ça avait été fait comme ça, pourquoi est-ce qu'ils ont vendu des parts à cette valeur s'il y avait Facebook qui voulait les acheter bien plus cher un petit peu plus loin, etc., etc. Donc, certaines théories qui sont sans doute les plus crédibles ont été énoncés par Home de GigaOM, Home Malik, et il disait il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, c'est cet investissement récent qui a poussé la valeur et qui a fait que Facebook a dû payer encore plus pour les acheter parce que la valeur avait augmenté et s'il voulait absolument les acheter, il devait mettre encore plus d'argent sur la table. Entre parenthèses, c'est pas que du cash, hein. Il y a aussi des actions qui ont changé de main. On peut se douter qu'avec l'entrée en bourse de Facebook qui arrive bientôt aussi, ces actions vont valoir pas mal d'argent. Donc, il y a d'une part le fait que cet investissement a causé la montée en valeur de Instagram, et d'autre part le fait que Facebook voit Instagram comme un concurrent. Et ils se sont dit, là, ils commencent à grossir énormément, ils viennent de se lancer sur Android, il faut qu'on les chope, parce que sinon, ils risquent de venir nous concurrencer. Il y a aussi, bien sûr, un aspect de savoir-faire, parce que les outils de gestion de photos et de retravail de photos sont très très bons sur Instagram, ils sont très populaires et Facebook va sans doute intégrer des outils similaires dans leur plateforme de photos. On va parler un petit peu dans quelques minutes de ce que Facebook va faire avec Instagram, de ce que Instagram va devenir, mais l'autre point intéressant, c'est comment est-ce que ce réseau social qui a 30 millions d'utilisateurs peut être considéré comme une menace par Facebook qui en a, les derniers chiffres étaient à 800 millions d'utilisateurs. Eh bien, il faut savoir qu'une énorme partie de l'activité de Facebook se fait sur les photos. Les gens commentent sur des photos, postent des photos, etc., etc. Facebook est largement plus gros que Flickr, par exemple, qui est spécialisé sur les photos. Facebook est largement plus gros pour les photos. Donc, c'est une énorme partie de leur business, les photos. Et Instagram a aussi commencé à ouvrir son API, c'est-à-dire que d'autres programmes pouvaient utiliser Instagram pour poster des photos sur Instagram. Vous pouviez, par exemple, avoir un logiciel de retouche de photos qui pouvait directement poster sa photo sur Instagram. Donc, différents logiciels pouvaient s'intégrer à Instagram. Et donc, Instagram était en train de devenir une sorte de véritable réseau social à part entière et pas uniquement le simple fait de poster des photos sur, disons, dans l'écosystème d'Instagram uniquement. Vous pouviez avoir d'autres logiciels qu'il utilisait. Et avec la croissance qu'il connaissait, passer du lancement à 30 millions d'utilisateurs et une popularité incroyable en 2 ans seulement. Enfin, 30 millions, ça peut sembler comme un chiffre qui n'est pas énorme par rapport aux autres, mais la valeur et le potentiel d'Instagram est énorme. On peut imaginer que dans 1, 2, 3 ans, il est bien parti, en tout cas pour devenir quelque chose de beaucoup plus gros qu'Instagram et quelque chose de beaucoup plus gros que juste des photos. J'arrête mon long monologue. Ça vous a choqué, vous, ce chiffre de 1 milliard ?
Ouais, beaucoup, ouais. En ce qui me concerne, ça m'a beaucoup choqué puisque, je sais pas, 1 milliard, faut remettre les choses dans leur contexte. Je rappelle que HP a racheté Palm, 1,2 milliard. Donc, ouais. Et c'est Palm, quoi. C'est pas un soft sur une plateforme unique qui n'existait pas il y a 3 ans, quoi. Donc, je trouve ça vraiment énorme.
Entre parenthèses, HP a racheté Palm, mais effectivement, pour cette somme, c'est une somme qu'ils ont jetée par la fenêtre parce que
oui,
ils ont essayé.
Oui.
Bon, j'exagère, hein, pas jetée par
fait,
la fenêtre.
Tout à fait, mais je veux dire que Palm a été évalué à 1,2 milliard. Donc, le fait qu'une app comme ça sur iPhone soit évaluée à 1 milliard par Facebook, je me dis waouh, c'est pas mal quand même. Et puis c'est vrai que moi j'ai du mal à voir un petit peu comment Facebook va utiliser ça, puisque du coup ça va se traduire comment? Ça va juste se traduire par un bouton poster la photo sur Facebook depuis Instagram.
Il y est déjà, hein.
Oui, voilà, je me doute que le bouton y est déjà. Donc, je vois pas comment ça peut évoluer plus que ça. Je me pose la question, est-ce que Facebook ne va pas forcer les utilisateurs, enfin les internautes, à avoir un compte Facebook pour pouvoir visualiser les photos partagées via Instagram? Ce serait vraiment très dommage et vicieux de leur part, quoi. Mais bon, pourquoi pas, si ça leur appartient, ils peuvent très bien décider qu'il en soit ainsi.
Ouais.
30 millions d'utilisateurs sur les 800 millions de Facebook, je vois pas ça vraiment comme une grosse menace. Donc c'est vrai que pour moi ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Je trouve que c'est exagéré. Ouais. Je trouve ça exagéré.
Lionel, toi, l'opération te semble plus cohérente ?
Non, pas trop. Voire même, il y a un peu. Enfin, à mon sens, il y a beaucoup d'irrationnel dans cette histoire-là. Comme le dit Yann, on parle de quelque chose de totalement immatériel, c'est juste une application, hein. Donc
qui fait même pas vraiment d'argent en plus,
qui ne fait pas d'argent du tout,
qu'on sache.
Alors bon, c'est vrai que la société est toute petite. Instagram, tu le disais, c'est entre 10 et 15 personnes, donc il n'y a pas de modèle économique, absolument aucun modèle économique autour de cette application là. C'est juste une excellente idée. De quelques personnes à un moment donné il y a quelques années qui ont décidé de créer une application qui était disponible jusqu'à il y a quelques jours uniquement sur la plateforme iOS qui a été mise sur le market Android il y a quelques jours, tu le rappelais, et on est à
5 millions de downloads en quelques jours seulement, hein,
ouais, voilà, donc c'est certain que c'est une application très sympa qui a beaucoup de succès et qui est beaucoup utilisé. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Maintenant, on est sur un chiffre qui dépasse l'entendement. Mais bon, c'est le choix de Facebook. Il, entre guillemets, dépense son argent un peu comme il veut. Je pense qu'il a eu... Je ne sais pas s'il a essayé de couper l'herbe sous le pied à une autre société, je pense à Google peut-être, qui aurait peut-être eu des vues sur cette application-là, et puis que Facebook a voulu clore le débat très vite, tout de suite.
Ça sent un peu comme ça. Ouais.
Enfin, c'est vraiment, ils ont sorti la grosse artillerie tout de suite. Mmh. Maintenant, c'est 1 milliard. Bon, ben voilà. Quoi.
Ils ont mis tout le monde d'accord. Ouais. Voilà.
Surtout qu'en ce moment, quand on parle de rachat dans à ces prix-là. On achète surtout le portefeuille de brevets, en fait. Mais là, en l'occurrence, Instagram, ils en ont pas, enfin, pas à ma connaissance. Donc, c'est vrai que ça, c'est juste une appli, quoi. C'est super volatile et demain, il peut avoir un nouvel Instagram qui défonce tout et qui fait un truc en plus. Et voilà.
Ouais.
Quoi.
C'est possible en théorie. Moi, je pense que quand même, ils ont atteint une masse critique quand même, Instagram. J'ai vu beaucoup de gens sur Twitter et Facebook qui disaient « Ah, de toute façon, il y a telle app qui fait la même chose, telle app, elle fait ça mieux. » Et c'est sûr, mais c'est quand même difficile de combattre un acteur qui est dominant. Et sur le partage de photos mobile, Instagram est clairement dominant et il faudrait qu'il y ait une application qui fasse quelque chose de vraiment, vraiment mieux pour pouvoir le combattre. Donc, bon, peut-être que Facebook s'est dit... Au moins, on les chope, et comme ça, on est tranquille. Une autre chose qui a fait beaucoup parler les gens, c'est que va faire Facebook d'Instagram? Il serait pas surprenant, en tout cas, dans ce type d'acquisition, ça arrive souvent, que les gens qui ont acquis la société intègrent l'équipe et ferment le service en question. Mark Zuckerberg, c'est comme ça qu'il s'appelle, a assuré que la société allait rester telle qu'elle est, exister indépendamment de Facebook. Enfin, le service allait exister indépendamment de Facebook. Ils ne vont pas le changer du tout. Ils vont utiliser les capacités et les connaissances des ingénieurs et des designers d'Instagram pour améliorer leur service de photos à eux, certainement, le service de photos de Facebook. Mais par contre, contrairement à ce que tout le monde craint, Instagram va certainement, enfin, en tout cas, c'est ce que Facebook a annoncé, Instagram va continuer à exister tel quel. À vrai dire, ils auraient peu d'intérêt à le faire disparaître parce que là, justement, ça laisserait le champ libre à quelqu'un d'autre. Ouais. Quelqu'un d'autre pourrait arriver. En tout cas, à terme, moi, je dirais sur les 2 prochaines années, à moins que Facebook n'intègre vraiment toutes les fonctionnalités et puisse intégrer aussi simplement et aussi de manière aussi élégante les fonctions d'Instagram, ça me paraît peu probable. Peut-être qu'ils vont changer le nom et le transformer en Facebook Photo d'ici quelques temps, un truc du genre. Peut-être qu'ils vont faire des changements mineurs du type c'est partagé automatiquement sur Facebook quand vous partagez une photo, ou il y a déjà des intégrations du type vous avez les actions Facebook. Donc, au lieu d'avoir un partage sur Facebook avec l'URL de la photo et la photo, vous avez un tel a partagé une photo ou un tel a pris une photo et vous avez cette action qui est mise en tant que statut au lieu d'avoir juste l'URL, ce genre de choses. Mais en tout cas, Zuckerberg a montré patte blanche. Moi, j'y crois parce que il a tout intérêt à ne pas chambouler les choses. Suis-je un pauvre naïf qui croit tout ce que qui gomme
attention,
tout ce
qu'on... je voudrais pas que ce soit mal compris ce que j'ai dit. Je pense que c'est une très bonne chose de d'enrichir l'expérience, l'interface qu'on a avec Facebook, avec Instagram et tous ces logiciels qui sont en vogue en ce moment. Avoir, je crois que Facebook, ils ont une application dédiée sur iOS. Le fait de fusionner un petit peu cette application avec Instagram ne fera qu'améliorer les choses pour l'utilisateur. Ça, il y a pas de raison. Je dis juste que 1 milliard de dollars pour ça, c'est beaucoup. Et voilà, c'est juste là que je me dis, c'est un peu exagéré, quoi.
D'accord. Et toi, Lionel, tu penses qu'ils vont dégoupiller une grosse grenade et l'envoyer sur la tête de tous les Instagrammeurs ou...
C'est pas leur intérêt. Leur intérêt, je pense que vraiment, et Facebook l'a compris, enfin, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais l'intérêt de Facebook, c'est de ne pas dénaturer le produit. S'ils ont acheté une application à un prix aussi important, c'est pour éviter de lui dégoupiller, de lui mettre une grenade sur la la tête, comme tu dis. Je pense qu'il faut conserver, enfin, que Facebook, ouais, va conserver.
Oui, ils ont intérêt à garder le produit tel qu'il est, quoi.
Bien sûr. Et la philosophie du produit qui est extrêmement simple. Il y aurait rien de pire que d'ajouter dans l'Instagram tel qu'on le connaît aujourd'hui la grosse artillerie de Facebook, qui est quand même assez complexe en termes d'interface. Donc, même si elle a tendance à s'être un petit peu simplifiée ces derniers temps, mais c'est quand même une interface qui est un peu confuse. L'avantage d'Instagram, comme Twitter d'ailleurs, c'est des interfaces qui sont extrêmement sobres, extrêmement simples, qui font ce qu'ils font, ce qu'elles ont à faire, et puis c'est tout, quoi.
Ouais.
Donc voilà. Moi, je pense que au-delà de la fonctionnalité, je suis quand même un petit peu gêné. Ce domaine de la technologie est un domaine vraiment qui parfois est un peu étonnant. On est un peu déconnecté de la réalité.
Hier, quand ça a été annoncé, c'est sûr que tout le monde a été surpris, oui.
Oui, tout le monde s'est dit, attends, c'est quoi, c'est le 1er avril, on est le combien? Non, c'est pas le 1er avril. Donc, ça me gêne un peu quand même. $1 milliard pour une application qui ne crée absolument aucune richesse, qui ne crée pour l'instant aucun emploi, qui... C'est... Je sais pas si...
Alors, il y a des
gêne.
Gens qui
Moi,
parlent de
bulles,
bien sûr, mais...
Il y a pas quelque chose qui vous choque un peu, qui vous interpelle là-dedans?
Ben, difficile à dire. Oui, ça paraît. Je sais pas parce que c'est quand même un truc qui marche très bien, dont les gens veulent. Je sais pas si ça vaut un milliard, mais si tu veux.
Un milliard.
Non, mais ça veut rien. Enfin, c'est abstrait comme chiffre. On sait même pas ce que ça veut dire. Un milliard.
Ah,
mais...
écoute, pour moi, c'est pas du tout abstrait.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Le prix des choses, c'est la somme que les gens veulent bien payer, acceptent de payer pour, tu vois. Et en l'occurrence, visiblement, Facebook accepte de payer un milliard pour Instagram. Est-ce que c'est une erreur? Peut-être, mais ça me choque pas tellement plus que le fait de payer une montre 10 000 euros, tu vois. C'est une montre, oui, elle donne l'heure. Si tu l'achètes chez Philippe Patek, elle va te coûter plus. Si tu l'achètes pas Smart, mais moi je fais mes courses que chez Philippe Patek, donc je connais pas le nom des marques des marques bon marché. Non, mais je veux dire, si tu l'achètes Swatch, merci la chatroom, merci Nicolas Poppy et MDBill.
MDBill.
Oui, si tu l'achètes chez Swatch, elle va te coûter moins cher. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui paye sa montre 10 000 euros est forcément à pas de contact avec la réalité? Peut-être, oui. Peut-être qu'il a aussi beaucoup d'argent et qu'il... Enfin, j'en sais rien.
Non, mais de toute façon, on n'aura plus besoin de tout ça, là. Avec Google qui sort son projet de réalité augmentée, là. On
aura bon, plus t'as raison. Tu nous offres...
Des photos.
Tu nous offres une transition bien trouvée. Lionel, je te donne le dernier mot sur le sujet parce que c'est vrai qu'il est difficile de juger vraiment la chose d'ici. On le saura certainement plus. On saura certainement plus qui avait raison et qui avait tort dans quelques années, mais... Le dernier mot, Lionel.
Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est de faire la. Il y a beaucoup de journalistes qui ont fait le lien avec la bulle internet, enfin la bulle, oui, des startups du net qu'on a vécu dans les années 2000 et qui a éclaté. Donc c'est un contexte bien différent, mais ça y fait penser quand même.
Ouais. Je crois que c'est dangereux de parler de bulles dans ce genre de cas, mais bon. Peut-être.
Mais tu sais, pour rester un peu dans le sujet, puis après on passe au sujet suivant, promis. C'est regarde les sociétés comme Groupon, regarde les dernières introductions en bourse qui ont été valorisées à un niveau assez élevé lors de leur introduction en bourse, et qui se bananent aujourd'hui, qui font moins 30, moins 40, voire moins 60%.
Groupon, effectivement, Groupon, c'est la cata. Ils sont même en train de Enfin, il y a des procès des actionnaires qui veulent reprendre le contrôle du board. Oui, c'est effectivement, c'est pas beau. Ouais. Mais Groupon encore, c'est un cas particulier, je pense.
Mais... Oui, mais enfin bon, il n'y a pas que cette société-là, mais ça peut avoir des impacts. Je veux dire, surévaluer ce genre de société, Facebook va rentrer sur le marché boursier vraisemblablement très bientôt. Eh bien, derrière, ça peut avoir des impacts pour des investisseurs. développeurs qui vont se casser la figure. Évidemment, c'est pas ce que je souhaite, mais qui peuvent se casser la figure parce qu'on est dans des chiffres qui sont complètement irrationnels et à un moment donné, ben, la réalité revient sur le devant de la scène, quoi. Mais enfin.
Bon, on verra effectivement. Moi, j'ai tendance à dire que Facebook, c'est un peu les maîtres du monde dans les réseaux sociaux et que c'est tellement important les réseaux sociaux qu'il y aura de quoi faire. Mais bon, effectivement, c'est bon sur Instagram par exemple, que ce soit 500 millions ou 1 milliard, c'est pour ça que je dis que c'est abstrait. 500 millions, est-ce qu'ils auraient valu 500 millions? C'est monstrueux aussi et ils font
on
pas plus
dit
d'argent.
La même chose,
avec...
en effet.
Ouais, c'est ça. Donc bon, bref. Tu nous parlais, Yann, du projet Glass. Est-ce que tu veux nous expliquer de quoi il s'agit? Moi, je pense que je pourrais pas le dire sans, je pourrais pas expliquer sans rigoler trop. Donc
non, ben écoute, c'est assez simple en fait. C'est Google qui a récemment, je crois que ça doit faire un peu moins d'une semaine, ils ont levé le voile sur un des projets sur lesquels ils travaillaient en secret depuis quelque temps. Et en fait, il s'agit de lunettes que vous portez qui vont améliorer, qui vont augmenter la réalité et qui se superposer finalement.
Attends,
à ce que
qui
vous voyez.
Augmente la réalité. Est-ce que ça veut dire que ma Swatch va se transformer en
Rolex?
En Rolex.
Écoute, c'est possible. Hein. tu vas avoir un petit truc par-dessus qui va s'afficher. Mais non, c'est vraiment quelque chose. On a vu beaucoup.
C'est les
de
lunettes
vidéos
de réalité augmentée, quoi.
Ouais, des lunettes de réalité augmentée. On a vu beaucoup de vidéos de concepts de ce type-là et Google pousse vraiment la chose. Donc, ce sont des lunettes que vous posez qui sont très discrète pour le coup, donc on est très très loin des trucs des années 80 avec des gros casques qu'on portait. C'est vraiment très discret et
c'est même
ça
pas
super...
des lunettes complètes quoi, c'est genre
non, c'est
une
juste
barre
un oeil,
de la frame des lunettes, la monture des lunettes,
la monture,
c'est comme s'il y avait qu'une barre, une sorte de la partie supérieure de la monture avec un tout petit morceau de verre sur un qui descend sur un œil mais qui fait un quart de la taille d'un verre quoi.
Ouais, tout à fait. Et donc sur cette petite surface vont s'afficher donc en transparence des menus, un dashboard avec votre calendrier, votre agenda, les personnes avec qui vous avez rendez-vous, enfin à peu près tous les services que propose Google en termes de géolocalisation, etc. Et donc ça va être une sorte d'assistant qui va vous suivre toute la journée et qui va vous aider dans toutes vos différentes tâches. Donc ils ont publié une vidéo il y a une semaine pour montrer un petit peu la direction dans laquelle ils vont. Donc on suit un gars qui a une journée typique, donc il se réveille le matin, le petit les lunettes lui disent bon, écoute, t'as un rendez-vous avec telle personne à telle heure, donc il serait peut-être temps d'y aller, etc. Donc il suit sa journée et puis on voit que les lunettes lui disent écoute, ce serait pas intéressant de prendre le métro parce que il est bouché, donc tu devrais plutôt faire à pied en passant par là. Donc là du coup ça utilise le Google Maps, etc. Donc c'est vraiment une aide, une amélioration donc des problèmes que vous auriez pu rencontrer sans ces lunettes. Du coup ça vous aide à vous déplacer, à communiquer avec les gens. On a des systèmes de
finalement c'est comme ce que vous pouvez avoir sur votre smartphone, sauf que ça s'affiche en ce qui s'appelle le head-up display, c'est-à-dire en réalité augmentée. Donc il vous dit, même si vous devez aller quelque part, il vous indique où aller, il vous dit met les flèches, tournez à droite, tournez à gauche quand vous êtes en train de marcher, machin.
Il y avait un petit exemple que j'ai trouvé vraiment pas mal. J'espère vraiment que ça arrivera, mais bon, je suis un peu sceptique. On montrait cet exemple où il était dans une librairie, il avait besoin d'acheter un livre, mais il savait pas du tout où se trouvait le livre dans cette librairie. Il y avait plusieurs rayons, etc. Et donc les lunettes lui disaient, écoute, va à la troisième rangée à droite sur le deuxième étage, tu vas trouver le livre qui t'intéresse, quoi. Donc ça suppose que Google avait la cartographie du magasin en question et savait exactement où se trouvait le livre. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous aide, quoi. Vous avez besoin d'acheter une brique de lait dans un magasin dans lequel vous n'êtes jamais allé, les lunettes vont vous expliquer dans quel rayon ça se trouve, etc. Oui.
Ça pourrait être fait sur un Android aussi, enfin je veux dire sur le téléphone aussi. C'est juste que là ça s'affiche sur
Ça s'affiche directement, sur les lunettes. Donc c'est vraiment très très novateur. On a vraiment l'impression d'avoir un aperçu de ce que pourra être le futur. Mais c'est pas si distant que ça, parce que on parle de prototype public, mise à disposition du public à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc c'est relativement proche pour quelque chose d'aussi novateur. Mais en même temps, tu vois, on peut pas s'empêcher de craindre les petits couacs avec ce genre de périphérique. J'avais vu une vidéo qui parodiait un petit peu le système où tu
la
voyais...
La vidéo version Microsoft, c'est ça?
Non, je ne me permettrai pas. mais il y avait une vidéo où tu voyais donc le gars enfin qui se baladait avec ses lunettes et t'imagines enfin je me balade avec les lunettes et on me dit ah Patrick souhaite vous inviter à un dîner ce soir et moi je réponds à haute voix ah non c'est un boulet et là tu vois les lunettes qui dit ah non non c'est un boulet message envoyé et là tu dis non, non. Donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne reconnaissance ouais. vocale et qu'ils comprennent bien le concept dans la rue avec le bruit, etc. Ça va être très très compliqué de,
ouais.
de
pouvoir... Bah, à vrai dire, moi je te trouve plutôt généreux. Hein. Moi quand j'ai vu ça, c'est le genre de truc qui me... C'est le genre de truc qui m'horripile un petit... Pas qui m'horripile, mais...
Oh.
Franchement, c'est plus du flan que ça, c'est pas possible quoi. C'est le genre de vidéo... Ils auraient dû les appeler les Google Flan, pas Google Glass. C'est... C'est le genre de vidéo, genre de futurologie. C'est des trucs complètement conceptuels. C'est, on aimerait bien arriver à un truc comme ça un jour, mais il y a tellement de problèmes pour y arriver que c'est, enfin, ça me paraît impossible d'y arriver tel qu'il le montre comme ça. C'est vraiment une vidéo de concept. Donc, peut-être que, s'ils y arrivent, c'est merveilleux. S'ils nous montrent un prototype qui réussit à faire toutes ces choses-là, bah, super, moi je suis super content. Mais il y a tellement de trucs. D'une part, la manière dont c'est présenté sur la vidéo, ça te couvre tout ton champ de vision et ça peut t'afficher des trucs un peu n'importe où. Avec ce truc-là, à moins qu'ils envoient l'image dans ta rétine, je vois pas comment ça peut couvrir ton champ de vision. Ensuite, comment tu le contrôles? C'est avec des mouvements de Dieu, quand tu vas vers la droite un petit peu, ça fait des trucs. Enfin, t'as pas d'interface, ou en tout cas, on sait
non,
pas
mais il est
du
avec
tout
Kinect,
comment ça.
Le truc,
ah oui, d'accord, c'est ça, effectivement, oui. Ensuite, l'autonomie du truc. Enfin, pour projeter un truc comme ça, il faut que tu aies ta batterie attachée, que tu portes dans la poche en même temps.
On ne voit pas le sac à dos derrière.
Ouais, c'est ça, exactement. T'as la connexion sans fil qui est faite comment? Enfin, il y a plein de trucs vraiment incroyables qui sont en développement dans, enfin, il y a un type, par exemple, qui est en train un centre de recherche, je sais plus où exactement, mais il est en train de développer des lentilles qui sont capables d'afficher des pixels, des lentilles de vue qui sont capables d'afficher des pixels. Et il a réussi à faire des lentilles qui affichent genre un ou deux pixels. Donc c'est le début, peut-être qu'à terme, on aura des écrans dans nos lentilles, ça sera merveilleux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment au stade de recherche. Et là, c'est même pas de la recherche, c'est du concept. Ils ont mis la vidéo de ce qu'ils aimeraient faire un jour, peut-être s'ils y arrivent. Alors, c'est bien qu'ils y travaillent, mais on sait que Larry Page avait ses lunettes sur le nez et qu'il a vu Robert Scoble à un moment. Et effectivement, il avait ses lunettes sur le nez, mais il les a pas filées à Scoble. Visiblement, on sait pas comment elle marchait, on sait pas ce qu'elle faisait.
Attends, mais je trouve super négatif.
Google flan, quoi.
Des
vidéos de futurologie, il y en a plein. Il y en a des tonnes, quoi.
Il y a du, tu sais, remonté le Patrick.
Ouais, non, mais tu sais, les voitures qui volent, on nous les promet depuis un moment, quoi.
Ben pardon, ah, je t'ai interrompu. Voilà, c'est pour ça que t'es vénère.
Tu es frustré, c'est pour ça. T'as ta voiture volante.
Et ouais, mais non, mais franchement, blague à part, le heads-up display, ça existe déjà dans les voitures. La géolocalisation, etc. C'est des choses qui existent dans nos téléphones cellulaires. Donc, le fait qu'on ait cette technologie à la fin de l'année, bon, honnêtement, j'y crois pas trop. Même l'année prochaine, dans les.
Ouais, moi, j'y crois pas non plus.
Comment ils l'ont présenté? Ne serait-ce qu'au niveau des temps d'accès pour pouvoir récupérer l'information qu'il t'affiche à la vitesse à laquelle c'est affiché dans la vidéo, c'est juste pas possible avec les problèmes de réseau qu'on a actuellement.
Mais c'est à la limite, pourquoi pas.
Quand on décompose la technologie une par une, c'est des choses qu'on sait faire aujourd'hui. Le miniaturiser dans une paire de lunettes comme ils l'ont montré, je demande encore à voir.
C'est tout le problème. Juste que tu dis genre, ah, on sait tout faire, mais bon, c'est juste le fait de le miniaturiser. Oui, effectivement, on sait tout faire. Mais c'est ça le vrai, vrai, vrai problème, c'est de le miniaturiser comme ça. C'est pas un petit problème. C'est genre, enfin bon. Tu sais, on sait écrire IBM avec genre 35 électrons. Regardez au microscope, ils écrivent IBM en 0,000000005 millimètres. Ça veut pas dire qu'on va écrire des textes, qu'on va écrire la Pléiade en microns, en électrons. Bon, je me suis un peu perdu, j'avoue. Lionel, t'es bien silencieux.
Ben, je vous écoute attentivement, mais moi je vais dans le sens de Patrick.
Ah merci, quelqu'un de logique.
Parce que c'est le boss et je suis obligé.
Écoute, moi je prends, ça me va quand même, c'est une bonne raison. Attends, je vais poser la question dans la chatroom pendant qu'on en discute et on va voir ce qu'en pensent les gens.
Ouais. Donc juste pour donner mon avis sur le sujet, je suis un petit peu partagé. Moi j'aimerais bien qu'on y arrive en fait. Et il n'y a rien de plus frustrant que ce genre de vidéo quelque part parce qu'on sait très bien. En plus, franchement, la date de la fin d'année, c'est quand même super super short pour pouvoir arriver à un tel degré de finesse et de fluidité dans les fonctionnalités.
Désolé, je suis en train de regarder le sondage en même temps.
Attends, Google Glass.
Attends, je vote. Jérôme qui est dans la chatroom nous dit Google Glass, c'est pas très net. Quand même.
Et puis il a dit qu'il avait plein de voitures volées aussi dans son quartier.
D'accord.
Et pas des voitures volantes. Ouais, c'est... Ça engendre de la frustration parce que je sais pas si le produit va sortir en fin d'année ou dans le courant de l'année prochaine, mais bon, les cartes indoor pour l'instant dans les bâtiments ça n'existe pas ou très peu. Enfin, moi j'en connais pas personnellement.
De quoi, pardon?
Les cartes indoor, donc aller dans un magasin, bah dis-moi où est le rayon librairie.
Ah oui.
Enfin, ouais, vous avez déjà vu ce genre de carte, vous?
Non, disons que Google fait des trucs dans les centres commerciaux, mais c'est pas encore à l'intérieur de chaque magasin non plus, quoi.
Voilà. Donc, en effet, comment ça se pilote? Donc, ça se pilote à la voix, ça se pilote. Bon, on est en train vraiment de deviser sur quelque chose d'extrêmement conceptuel. J'ai l'impression de revoir le courrier de Microsoft dans un autre domaine où tout le monde salivait sur le courrier, mais bon, voilà, c'est juste une vidéo de démonstration. En effet,
encore le courrier, c'était faisable, quoi.
Oui,
enfin, c'était un prototype qui existait. C'était pas. Là, c'est comme si. Enfin, bon, bref, je vais arrêter parce que.
Mais j'ai pas vu le proto de courrier. Hein. Moi, j'ai vu une belle vidéo style complètement virtuel.
C'est vrai, t'as raison. Oui.
Ah oui, ça, il n'existait pas le produit en tant que tel. Mais bon.
Bon.
On aimerait bien, mais je pense que on est un petit peu dans le rêve.
Ouais.
Et puis, moi, je me fais cette réflexion régulièrement. Je suis régulièrement frustré par le décalage qu'il y a même entre les discours qui tournent autour de nos devices qu'on utilise au quotidien aujourd'hui, les smartphones, les tablettes, etc., et notre usage et les limitations d'usage auxquelles on est confronté pour divers problèmes, soit des problèmes techniques, soit des problèmes d'ergonomie, soit des problèmes, je pense par exemple j'ai la Freebox, alors je dévie un petit peu mais j'ai la Freebox, on nous parle de vidéo à la demande, etc., et sans arrêt on a des bâtons dans les roues de l'expérience utilisateur qui fait que la fluidité n'est pas au rendez-vous sur les sur les devices qu'on utilise aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant, quotidien.
En même temps, Tinus, dans la chatroom, dit honnêtement, il y a 5 ans, on m'aurait dit que des voitures se conduiraient toutes seules, j'y aurais pas cru.
Ouais, c'est pas faux,
mais Google, quand ils ont montré ça, ils ont montré la voiture. Ils ont pas montré une vidéo genre, on aimerait bien le faire un jour, quoi. Bref. En gros, si le jour où ça sera possible et où ça arrivera, je serai le premier à aller faire la queue pour acheter ce type d'appareil. C'est magique, effectivement. Mais ce qui me frustre dans cette histoire, c'est la démarche de montrer une vidéo concept et de laisser entendre plus ou moins que c'est un truc qu'on est en train de faire et on l'aura bientôt. Bon, s'ils l'ont effectivement bientôt, je mangerai mes ce que je dis aujourd'hui, un anglicisme encore. Je dirais ok, bah c'est très bien et c'est merveilleux. Et j'avais tort, je pensais que c'était pas possible, en fait ils l'ont fait, mais présenté comme ça me paraît
c'est impossible.
C'est l'épisode numéro
84.
C'est très bien, très bien.
Ouais, moi franchement, je serais prêt à parier que ça sera pas sorti avant la fin de l'année, hein. Ça bon. Bref, on enchaîne avec un autre milliard qui est une autre peut-être que ça les vaut un peu plus. Je vous explique. AOL a vendu à Microsoft 800 brevets pour environ 1 milliard, là encore. C'est peut-être, en tout cas l'analyse qu'en font les analystes, c'est que Microsoft a payé ses brevets pour que personne d'autre ne les ait, là encore, une action défensive. Et c'est un peu cher payé, mais en même temps, ce sont de vrais brevets importants. Il y a des brevets sur le SSL, qui est une sécurisation du trafic sur le web. Il y a des brevets sur je vais pas vous embêter avec tous les brevets, mais il y a des brevets relativement importants sur les formulaires sur le web, etc. Une partie des brevets qui appartenaient à Netscape, ce qui est marrant, parce que bon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'historique, c'est marrant. Mais ça donne à Microsoft une position de force assez importante, et quand on sait...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
L'importance des brevets d'aujourd'hui, ça les renforce leur position sur le marché de manière non négligeable. On sait par exemple que Microsoft fait plus d'argent que Google sur les téléphones Android, ce qui est un petit peu vraisemblable, mais c'est pourtant le cas à cause des brevets, enfin une partie des téléphones en tout cas. Et l'importance des brevets, comme on en a souvent parlé ici, nous permet de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. C'est décevant, c'est une bonne chose pour vous que Microsoft ait acheté tous ces brevets ?
Ouais. Bah écoute, je ne sais pas si tu veux y aller. Vas-y, Lionel.
Non, rapidement, pour moi, c'est ni décevant, ni... Ça devient un peu commun, quoi, comme
enfin,
méthode.
Un milliard.
Non, mais bien sûr, la somme est importante. Je ne vais pas dire le contraire,
oui.
Mais
Rolette.
Mais le consortium dans lequel Microsoft avait été partie prenante il y a pas longtemps sur les brevets de Nortel, ça vous dit quelque chose? Mm-hmm. Je me rappelle plus la somme en fait que vous avez dépensé, mais il y avait Apple, Microsoft, Sony, je crois, étaient dans la boucle. Et pareil, il y avait tout un tas de brevets, mais plus de 1000 brevets qui avaient été rachetés comme ça par le consortium. Et le but, c'était de créer une espèce de pacte de non-agression en quelque sorte, pour pouvoir éviter les problèmes de démarche juridique. C'est mon brevet, tu violes mon brevet, non, tu voulais le mien, et puis ces débats et ces procès qui n'en finissent plus, qui n'ont ni queue ni tête au final.
C'était 4 milliards 5 pour Nortel.
C'était Nortel, c'est ça, et puis
4 milliards 5.
Ouais. Et bon, donc c'est devenu monnaie courante, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Bon, moi, ça m'évoque pas grand-chose, si ce n'est que évidemment la somme est importante.
D'accord. Ouais, Yann, c'est pour toi aussi, c'est devenu un petit peu le quotidien de l'industrie tech.
Je trouve un peu dommage que ces sociétés qui étaient autrefois, je sais pas moi, des symboles d'innovation technologique se transforment peu à peu en cabinet d'avocats, quoi. C'est un peu dommage. Mais juste pour me faire un petit peu l'avocat du diable, quand on y creuse un petit peu plus, Microsoft, c'est la société qui avait le plus de dépendance finalement avec des brevets détenus par AOL. Quand on regarde la liste des brevets détenus par Microsoft, ils ont 1331 mais 331 dépendances vers des brevets, des technologies AOL. Donc c'est
ils rachètent leur propre technologie presque là.
Ben, ils rachètent des technologies ou des brevets qu'ils utilisent à un degré moins important. Et donc du coup, Microsoft a beaucoup plus d'intérêt à racheter ces brevets que Google par exemple, qui n'a que 304 dépendances sur AOL.
Je crois que les chiffres dont tu parles, c'est le nombre de brevets qu'ils ont déjà plutôt. C'est le nombre de brevets qu'ils ont déjà déposés, qu'ils ont déjà listés, non?
Non. C'est
Quand
on regarde les brevets détenus par Microsoft, IBM, etc.
Okay.
Quand ils déposent un brevet, ils disent voilà, on dépose ce brevet, et ils disent également que cette technologie est reliée ou s'appuiera sur les technologies d'AOL numéro temps.
Je comprends.
Et en fait, c'est Microsoft qui avait le palmarès, quoi. Il s'appuie sur 1331 technologies d'AOL. Donc, il les voulait absolument pour éviter de leur filer le moins de thunes possible au fil des années, quoi. C'est un investissement. Mais en regardant ce truc-là et en regardant le nombre d'achats de brevets comme ça, je me dis que c'est incroyable et c'est dingue que, enfin, heureusement qu'on ne le fait pas au niveau du jeu vidéo, par exemple. Et après, je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'ils le font. Donc, j'ai creusé un petit peu. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de brevets qui sont déposés au niveau des jeux vidéo. Donc, j'en ai noté quelques-unes qui étaient assez marrantes. Ben, par exemple, faut savoir que quand vous avez un écran de chargement dans un jeu vidéo, certains jeux affichent un mini-jeu, tu sais, juste pour te faire patienter un petit solitaire ou n'importe quoi. Ben en fait, il y a que Namco qui a le droit de faire ça, parce qu'il l'avait fait pour je sais plus un jeu de course qu'ils avaient fait
sur PlayStation. Ça devait être Ridge Racer à l'époque.
Ouais, voilà, Ridge Racer, ils avaient un jeu de Space Invader, voilà. Et donc personne n'a le droit de faire ça, de mettre un jeu pendant les écrans de chargement. Donc tu tapes une image parce que c'est Namco qui l'a, quoi.
Ouais, c'était pas Space Invader, mais oui.
Ouais, mais c'était un truc du genre. Et puis par exemple, quand vous êtes dans un jeu de voiture et que vous avez une flèche qui vous indique au-dessus de votre véhicule dans quelle direction aller, là en l'occurrence c'est Sega, il y a que Sega qui a le droit de faire
Galaga,
ça.
Galaga ou Galaxian, peut-être Galaga, pardon. Vas-y, continue.
OK, oui, effectivement, c'était ce jeu-là pour ouais. Mais la flèche au-dessus de votre voiture, c'était Sega qui avait créé ce truc-là pour Crazy Taxi, et du coup, d'accord, aucun jeu de voiture n'a le droit de mettre une flèche par-dessus pour vous indiquer. Et c'est pour ça, par exemple, dans GTA,
donc
on
ça
a
revient,
GPS.
Ouais. Donc ça revient à la question des brevets là encore qui sont présents un petit peu partout.
Ouais, c'est vraiment dommage, quoi, parce que du coup, surtout pour les jeux vidéo où c'est vraiment l'innovation, etc. Si on commence à avoir des brevets pour, je sais pas moi, Dungeon Fighter ou n'importe quoi, on va se retrouver avec des jeux vraiment vraiment très limités, quoi. Donc c'est dommage qu'on parte dans ces directions.
En tout cas, il y en a un qui se laisse pas faire, c'est Facebook, puisque on vous parlait il y a deux semaines de Yahoo qui a fait une attaque un petit peu vicieuse avec son portefeuille de brevets, justement, contre Facebook. Et ben, Facebook a fait un contre-procès et ils ont annoncé qu'ils ne se laisseraient pas faire, et ils ont effectivement contre-attaqué en disant que Yahoo, violait certains de leurs brevets à eux, donc à Facebook. Et donc ils ne se sont pas couchés dans la bataille. Donc bon, peut-être que effectivement certains sont en train de se de combattre fièrement contre cette ineptie des brevets. Donc on verra ce que ça donne d'ici quelques temps.
Ouais.
Bon, c'est à peu près tout pour les grosses nouvelles. On va avoir une bonne quantité de nouvelles plus courte, avant de passer aux news et rumeurs ou aux app info, en fonction des jours, le nom change. On va vous parler deux secondes de la boutique No Watch. Jérôme est dans la chatroom, il va peut-être me dire si je dis des bêtises, parce que ça m'arrive souvent en ce moment. La boutique No Watch, en fait, change pendant quelques temps. Je vais pas trop mouiller. Et bientôt, elle va changer et l'ancienne va être en travaux pendant quelques temps et la nouvelle va vous proposer d'autres types de produits. Je vais pas vous dire exactement tout ce qu'il y aura, mais il y aura des produits du type des décalcomanies à faire sur vos appareils mobiles, par exemple, ou vos portables, ce genre de choses. Si vous voulez la petite hulquette, comme on l'appelle, la fille qui crie, là, le symbole de No Watch, vous pourrez en décorer votre appareil oreilles grâce aux choses que vous pourrez acheter sur la boutique, des choses comme ça. Il y a plein d'autres choses de super bonne qualité qu'on vous proposera. Mais ce que ça veut dire, c'est que pendant quelques temps, les objets de la boutique d'aujourd'hui ne seront plus disponibles. Donc si vous en voulez absolument, vous en avez un qui vous tape dans l'œil depuis un bon moment et vous n'êtes jamais lancé pour l'acheter, eh ben c'est le moment, parce que bientôt ils ne seront plus disponibles, au moins pendant quelques temps. Je rappelle à certains et certaines qu'il y a des slips et des strings aux couleurs de certaines de vos émissions. Donc voilà, à bon entendeur. En tout cas, le lien est comme toujours sur le site nowatch.net. Vous cliquez sur le lien La Boutique dans la barre du haut et vous y accédez très facilement. Merci à tous ceux qui choisissent de nous soutenir en faisant leur shopping là-bas. On enchaîne donc avec la suite. Et la suite, on parlait de Google. Je vais peut-être continuer sur Google, en vous parlant de la tablette, la prochaine tablette Google officielle qui pourrait peut-être arriver bientôt. Tiens, il y a la chatroom qui ne nous entend sans doute plus normalement. Ah si, c'est revenu. Petit souci sur Skype. Donc la prochaine tablette dont on entend des rumeurs depuis quelques temps, qui devrait arriver bientôt, peut-être fabriquée par Asus, la tablette officielle Google Android. Eh bien justement, je dis Android, mais c'est peut-être pas tout à fait le cas. Il est possible qu'ils changent le nom de leurs produits sous Android, parce que Android est devenu un petit peu une marque fourre-tout dont ils ont perdu le contrôle. Et Android ne veut plus vraiment dire grand-chose. Bien sûr, c'est toujours le système d'exploitation qui équipe la majorité des smartphones, qui est utilisé par énormément de gens, mais il n'y a pas de standard. Bien sûr, par standard, on entend standard de qualité, certaines caractéristiques spécifiques. Et Google pourrait vouloir, au moins pour sa tablette dans un premier temps, utiliser une vraie marque qui leur appartient, dont ils ont le contrôle, et appeler leur tablette la tablette Play plutôt que la tablette Android. Vous avez des réflexions sur cette rumeur,
Yann?
Non, ça vous inspire pas visiblement.
Écoute, je sais pas. Quand je vois ça, je pense à Nintendo un peu qui a décidé de lancer une console qui s'appelle la Wii pour faire la scission directement avec Nintendo, qui était associée vraiment aux jeux, aux gamins, etc. Donc ils ont lancé cette marque et du coup, ben les gens qui n'étaient pas vraiment connectés aux jeux vidéo, ils ont dit tiens, la Wii, je connais pas. Tiens, je vais essayer. Ah, c'est marrant, sans vraiment savoir que derrière c'était un jouet pour enfants, quoi. Donc il y a peut-être un peu de cette philosophie derrière cette histoire de couper Android qui est vraiment rattaché aussi au monde bidouilleur, etc.
Je pense pas que ça soit ça, à mon avis. Le problème, c'est que l'image d'Android dans le grand public est très diffuse, parce qu'il y a tellement de téléphones différents et tellement de caractéristiques différentes, que ce soit des téléphones de qualité avec des bons écrans, des mauvais écrans, des plus ou moins rapides, etc. Et à mon avis, c'est plus pour... Vas-y, Lionel.
Oui, avec telle ou telle version en plus. Il y a Android 4, alors 4, c'est relativement rare, mais et c'est vrai que cet univers Android est trop riche. C'est un univers qui est trop diffus, et en effet, je vais tout à fait dans ton sens. Bon, est-ce que pour autant recréer une marque Play, c'est pas encore rajouter de la complexité au-dessus d'une certaine complexité? Je sais pas.
On connaît un petit peu ça dans le monde du libre, souvent, comme on pense à Linux tout de suite, avec certaines marques qui sont obligées de créer leur propre marque, justement, alors qu'ils font des distributions Linux classiques. Absolument. Ils vont pas les appeler Linux, ils les appellent Red Hat ou machin ou truc, parce que c'est nous, on l'adapte de cette manière, et donc ça donne cette qualité et ces garanties. Donc ça serait peut-être quelque chose d'intéressant, effectivement. Autre chose, il y a une grosse histoire, il y a une dizaine de jours, sur le fait que Google fasse très très peu d'argent avec les téléphones Android, justement. On parle de genre $2 par appareil vendu pour Google, qui se font sans doute sur la pub qui est affichée quand ils utilisent, quand les téléphones sont utilisés pour aller sur le net, etc. Alors que Apple fait genre $570 en moyenne par iPhone sorti. Et il y a beaucoup de gens qui ont utilisé cette analyse, qui d'une part n'est encore qu'une rumeur, mais qui ont utilisé utiliser cette analyse pour dire oulala, voilà, Apple a tout compris et Google s'est planté avec Android. Bon, il y a un petit peu. Ouh, j'ai même pas dit le résultat du sondage. Pardon, j'ai complètement oublié. On est à 60% de oui, Google c'est du flan. Et 40% environ hein, de non Google, c'est pas du flan, 42% exactement. J'aurais pensé qu'il y avait plus de gens qui comprenaient que c'était du flan, mais visiblement il y a des gens qui sont convaincus.
Peut-être que c'est juste pas du flan.
On verra. Donc merci à la chatroom d'avoir participé. Donc effectivement, le truc c'est que Android, Google ne fait pas d'argent avec Android, c'est pas vraiment vraiment la question. Imaginez ce qui serait passé si Google n'avait pas sorti Android. Bon, d'une part ils sont sur tous ces appareils et ils ont un certain contrôle de tous ces appareils, ce qui est extrêmement important pour eux. Mais imaginez si Google n'avait pas sorti Android, les smartphones seraient sans doute quasiment uniquement Apple. Je veux dire, aujourd'hui sur le marché, il y a Android et Apple, et loin derrière Windows Phone. Et bon, il y a aussi BlackBerry, ce qui est un autre sujet, mais il y aurait peut-être que Apple, comme il n'y a que Apple sur le marché des baladeurs MP3. L'iPod domine totalement. Et ben là, Google a réussi à éviter cette position dominante d'Apple, et c'était peut-être d'une part ce qu'il voulait. D'autre part, ils font de l'argent sur les appareils Apple aussi. Donc, c'est pas aussi simple que de réduire la question à Google fait peu d'argent sur Android, donc ils sont plantés.
Ouais, et puis il y a aussi l'App Store, enfin bon, en l'occurrence c'est un mauvais exemple parce que je crois pas qu'il se fasse des milliards avec cette application. Ouais. Ouais, voilà, mais bon, il y en a plein qui vendent une plateforme parfois souvent à perte pour vendre le contenu après dessus et se faire de l'argent sur le contenu qui est disponible sur la plateforme. Donc c'était peut-être aussi le but de Google. Bon ben voilà, ils ont le succès qu'on connaît, mais voilà, c'est effectivement pas la seule composante à évaluer.
Autre news de Google et de Chrome, cette fois-ci, il semblerait qu'il y ait une nouvelle version de Chrome OS. Vous savez, c'est ce système d'exploitation qui serait uniquement navigateur, qui est destiné aux ordinateurs de genre les netbooks. Eh bien, il serait revu pour avoir une nouvelle interface qui ressemblerait beaucoup à l'interface traditionnelle type Windows ou macOS. C'est-à-dire que les fenêtres pourraient être... ça serait pas juste une seule fenêtre avec des onglets pour les différents sites que vous visitez. Il pourrait y avoir plusieurs fenêtres que vous pourriez redimensionner et déplacer indépendamment les unes des autres, avec en bas de l'écran une barre avec les différents sites, donc les différentes applications que vous pourriez lancer indépendamment. Et puis sur le côté, vraiment ça ressemble à Windows, quoi. Sur le côté, il y a même une zone de notification avec l'horloge, etc. Est-ce que c'est... Ah, je ne sais pas trop quoi en penser. Pour moi, c'est presque un petit peu un aveu d'échec de Google qui dit, bon, bah, les gens ne veulent pas changer de l'interface qu'ils connaissent, donc on va leur donner quelque chose, une chose à laquelle ils ont l'habitude pour qu'ils utilisent Chrome OS. Au moment où Windows se déplace vers Windows 8, je trouve que c'est peut-être pas un aveu d'échec, mais... un manque de courage, je trouve. Le fait de ne pas trouver une solution innovante et de pas rester dans cette direction. En même temps, si c'est ce que les gens veulent et qu'ils ne réussissent pas à vendre leurs produits parce que c'est trop étrange pour les gens qui veulent l'utiliser, ils n'ont peut-être pas le choix.
Mais c'est super. Enfin, moi, je trouve que c'est super intelligent d'avoir fait ça, puisque moi, j'aurais jamais acheté d'ordinateur portable sous Chrome OS, parce que quand je vois les démos, moi, je vois un ordinateur qui démarre sur un navigateur. Donc, pour moi, c'est super restrictif. Je me dis que j'ai investi $200 sur un truc juste pour un navigateur. Alors que le fait d'avoir un bureau où j'ai mes petites icônes, etc., et je peux potentiellement lancer un navigateur, même si ce n'est qu'une illusion finalement, puisque le seul truc que je peux lancer, c'est le navigateur, mais le fait de me donner l'illusion que je peux réarranger mes fenêtres comme ça, ça me donne l'impression d'avoir quelque chose en plus de simplement un navigateur. Donc non, je trouve que c'est une illusion, mais une illusion qui fait quand même son petit chemin dans ma tête, quoi. Donc non, moi je trouve ça assez sympa.
D'accord. Lionel, ça t'inspire pas plus que ça?
Ouais, non, je pense que je suis un peu d'accord avec Yann, mais au-delà, je pense que c'est le concept de Chrome qui, pour le moment, ils auront beau remodeler l'interface utilisateur dans tous les sens, pour le moment, je pense que le concept, c'est soit trop tôt, soit pas la bonne idée, j'en sais rien.
Ouais. Mais le monde n'est pas prêt pour Chrome OS.
Ouais, je pense pas.
Bon, par contre, une chose qui est pour le coup, on n'a pas été gentil avec Google jusqu'à maintenant, donc encore que, hein, on analyse, mais un truc qui est très intéressant, c'est Wikidata, qui est en train d'être lancé avec la participation de Google notamment, et c'est quelque chose de très très intéressant. Bon, bien sûr, c'est une initiative de Wikimedia, de la fondation Wikimedia, qui est derrière Wikipédia, et l'idée de Wikidata, c'est de normaliser les informations de la connaissance du monde entier, un petit peu comme Wikipédia, sauf que ça serait une sorte d'immense base de données, ce qui fait que les informations qui y résideraient seraient beaucoup plus faciles à utiliser et beaucoup plus manipulables. Par exemple, aujourd'hui, si on a la page Wikipédia de Paris, on va avoir le nom du maire, la population de la ville, le nombre d'arrondissements, etc. Mais ces informations sont rédigées comme dans un traitement de texte. Donc pour les retrouver, pour les extraire, c'est très difficile à faire. Et ce qu'ils voudraient faire, c'est avoir le même type d'organisation de sujets, mais avec une organisation en base de données. C'est-à-dire que il y aurait une page pour les villes du monde et pour chaque ville, il y aurait différents types d'informations qu'il faut remplir. Donc là encore, on a la ville de Paris et on va avoir le nom du maire, le nombre d'habitants, le nombre d'arrondissements, etc. Mais pour toutes les villes du monde, il y aurait les mêmes types d'informations à remplir. Et comme on sait exactement ce qu'on va aller y trouver, et c'est en gros, bon, vous le comprenez aisément, hein, c'est beaucoup plus facile à manipuler par des machines, et c'est beaucoup plus facile d'en extraire les informations et d'en faire des services extrêmement intéressants. Donc c'est une base super utile qui pourra nous donner des outils super super poussés et super innovants. Et bien sûr, Google participe à ce projet et ça reste en open source, donc en libre et en Creative Commons. Donc tout le monde pourra s'en servir. C'est une super bonne nouvelle. C'est une idée d'une simplicité étonnante et c'est une super bonne nouvelle pour la connaissance dans le monde. Enfin, pour moi, ça va avoir une vraie influence sur la manière dont on traite les données et la connaissance, quoi.
Ouais, ça c'est quelque chose. Je suis un petit peu embêté parce que j'essaye de retrouver en même temps que tu parles, Patrick, une conférence de TED qui a été éditée en tout cas par et mise en ligne sur le site de TED, des fameuses conférences absolument passionnantes. Oui. Et un intervenant extrêmement connu, mais j'arrive pas à remettre la
Hans Rosling.
Hans
Rosling qui fait les courses de données sur sa présentation où il y a la Chine qui a plus de enfin qui grossit et qui l'Afrique qui rattrape les pays industrialisés, etc. Non, c'est pas ça quoi tu penses?
Non, c'était une personne qui justement allait dans ce sens-là de se dire voilà, sur Internet on a énormément d'informations, elles sont toutes présentées d'une façon spécifiques et différentes, et du coup elles sont extrêmement difficiles à exploiter.
Ouais.
Donc tout son article et son discours tournait autour du fait que, ok, mettez vos données, mettez-les en forme comme vous le souhaitez, avec des interfaces sympas, sexy, etc. Mais à côté, mettez-les en forme de quelque part en forme de texte brut ailleurs sur votre plateforme, de façon à ce que on puisse s'appuyer dessus pour pouvoir les exploiter.
Oui, et tout le mouvement de l'open data, comme le dit Tinus dans la chatroom, Paris est passé en open data il y a pas longtemps. Oui.
C'est vraiment très très intéressant. Donc c'est vrai que ce sujet-là est vraiment très très intéressant et c'est bien que Google s'y attache.
Oui, effectivement. Autre sujet intéressant, Next Issue. Next Issue, ça veut dire en anglais le prochain numéro. C'est une sorte d'association entre une grande partie des quelques-uns des plus grands éditeurs de magazines au monde qui veulent créer l'équivalent de Netflix pour les magazines numériques. C'est-à-dire que le principe serait le suivant, il y a une app à télécharger sur Android, enfin sur Google Play, comme il s'appelle aujourd'hui, le store, et vous payez un abonnement. Il y a différents types d'abonnements, hein, pour qui vous donnent accès à différents magazines, et vous n'avez plus besoin de payer vos magazines un à un, c'est-à-dire que vous pouvez y avoir accès autant que vous voulez. C'est le principe de l'abonnement, quoi, hein, comme Spotify, comme Netflix, etc. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est que pour les magazines anglophones, le projet est américain, mais il y a des magazines, c'est pas juste des magazines que personne ne connaît, quoi. Il y a le New Yorker, le Times, le Time, parce que c'est pas la même chose, People, pour les gens que ça intéresse, Elle, The New Yorker, il y a vraiment un petit peu de tout. Et c'est une initiative qui, moi, m'intéresse énormément. Le jour où elle arrivera en France, je m'abonnerai tout de suite, parce que si je peux avoir accès à tous mes magazines numériques pour 10 ou 15 euros par mois, je le fais tout de suite. Aujourd'hui, l'achat des magazines est un petit peu... Le fait de devoir sortir sa carte bleue, en quelque sorte, à chaque fois qu'on veut acheter un magazine, c'est rebutant. C'est le même problème, c'est pour ça que je suis abonné à Spotify, c'est pour ça que j'ai toutes sortes de trucs du genre. Là, ça pourrait vraiment m'intéresser. Et ça va arriver normalement sur iPad bientôt, espérons. Ça vous intéresserait, vous ?
Ouais, carrément, ouais. Ouais. Non, je trouve ça vraiment... Je suis vraiment, tout comme toi, hein, je suis vraiment fan des services à la Spotify. J'attends vraiment que ça arrive pour la vidéo. Et je désespère chaque mois de le voir arriver. Et, ouais. Mais le fait que ça arrive pour les magazines, je trouve ça extraordinaire. Et je serai l'un des premiers abonnés, ça c'est sûr.
Bah, si vous avez une tablette Android, ça s'appelle Next Issue et c'est déjà disponible avec des magazines américains et pour iOS bientôt. Lionel aussi, convaincu.
Oui, oui, tout à fait. Client.
Bon. Ok, on est pour. Le rendez-vous tech approuve. on parlait d'open source. Twitter est en train de passer en open source son travail sur les bases de données MySQL. Pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, Twitter, en fait, c'est l'énorme problème qu'ils ont eu pendant très longtemps, et le travail herculéen qu'ils ont fait, c'est sur les bases de données. Parce que le principe de Twitter, c'est que ils doivent propager des informations à des dizaines de millions de personnes. Il doit faire des dizaines de millions d'opérations croisées en permanence chaque seconde pour fonctionner. Quand vous envoyez un message, il va être répercuté à toutes les personnes qui vous suivent. Et quand on sait qu'ils ont, je sais plus combien de dizaines de millions d'utilisateurs aujourd'hui, je crois qu'on s'approche de la centaine de millions, ça fait des opérations monstrueuses à gérer, et c'est une architecture véritablement innovante et difficile à mettre en place, et y passant en open source, c'est une bonne nouvelle. Nicolas Poppy nous dit c'est 10 euros pour 10 magazines chez Relais, qui est une application les Relais, hein, vous connaissez. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Merci Nicolas Poppy. Je savais pas qu'il y avait... faut voir les magazines dont il s'agit, mais je suis peut-être intéressé, je vais aller regarder. Autre chose, Facebook pourrait se lancer dans la recherche. Peut-être pas la recherche pour entrer en concurrence avec Google immédiatement, mais au moins pour faire une meilleure recherche sur leur site. Et quand on sait l'importance des recommandations dans les recherches, des recommandations sociales dans les recherches, ça pourrait avoir des conséquences sur la recherche sur Internet en général. Et évidemment, c'est la recherche qui fait tourner le net en ce moment. Depuis que le net tourne, depuis le début des années 2000 en tout cas, et ça pourrait être une grosse nouvelle. Pour le moment, c'est encore très très flou, mais Google s'y intéresse. Vous m'interrompez hein, s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter. Adopi, oui, il y avait une petite news sur les infos que reçoivent la police quand Facebook répond à un mandat de perquisition sur un compte. C'est marrant, ils reçoivent toutes les informations en PDF, en fait imprimées, tous vos statuts, vos mises à jour, vos infos et tout. C'est des PDF ou même des liasses de papier sur lesquelles tout est imprimé. C'est bizarre. Wow.
Ouais, mais ça c'est très très intéressant hein, franchement c'est très intéressant de voir pour la première fois ce que reçoivent les autorités lorsqu'elles demandent à Facebook de les, enfin, lorsqu'elles demandent, elles demandent pas, elles leur donnent à Facebook de les aider pour résoudre une affaire. Et c'est très très intéressant de voir ce qu'envoie Facebook et la façon dont ils les envoient. En effet, l'ironie du sort, ouais, c'est vrai que c'est du papier.
C'est
marrant. Mais à feuilleter entre guillemets, parce que là le site internet auquel tu fais référence dans les notes de l'émission, enfin dans le document qu'on partage ensemble, ils ont mis donc le document en PDF, on peut le regarder et c'est instructif.
Oui, effectivement. Ok, autre info, je vais mettre le lien dans la chatroom, comme ça les gens pourront aller voir.
Ouais, ouais.
J'essaierai de le mettre dans les notes de l'émission si j'oublie pas. Je vous garantis pas. Hop, je fais une note pour essayer d'y penser. Donc, autre info, Adopi, ça marche. Oui, ça réduit effectivement le piratage selon l'Adopi. ce qui est marrant, c'est que... d'une part, ils annoncent qu'ils n'ont pas vu d'augmentation de trafic sur les autres services du type téléchargement direct ou streaming. Bon, ça paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas. Ce qui est marrant, c'est qu'ils n'attachent pas à leur rapport une augmentation des ventes.
Sinon, donc, ce serait embêtant de voir que les ventes descendent toujours de la même manière.
Oui.
Ça déferle. Mais c'est affligeant de voir que ces gens, enfin, je me demande vraiment s'ils y croient vraiment. Ils pensent vraiment qu'en traquant les gens comme ça, qu'ils vont se dire, ah, ben, zut, je peux plus télécharger, donc du coup, ben, je vais retourner acheter.
Ouais.
C'est dingue, quoi.
Oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment quoi faire, et ça, c'est le mieux qu'ils aient trouvé, et bon. Bref. Donc voilà, c'était l'annonce Adopi France du jour. Si vous n'aimez pas Adopi dans le monde, eh ben vous êtes mal barré parce qu'il y a une sorte d'Adopi aux États-Unis qui est en train d'être créée, le Center for Copyright Information, sachant que ils annoncent qu'ils vont plutôt s'orienter vers l'information plutôt que la répression. Mais bon, tous les plus grands sont dans la boucle, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès, la MPA, la RIA, etc. Bon, ils disent qu'ils ne sont pas en train de faire ça pour la répression. On verra ce que ça donne.
Facebook est dans le truc aussi.
Oui, il y a beaucoup beaucoup de gens. Oui. Je sais pas très bien ce que Facebook fait là-dedans, mais bon, effectivement, pour si on partage des trucs sur Facebook et que c'est illégal. Bon. Peut-être.
Des patentes
peut-être, des brevets. Dernière chose, à moins que vous n'en ayez d'autres dont vous voulez parler, mais en tout cas la dernière pour moi, c'est Free Mobile, est-ce que c'est pourri ? Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui se sont posées, on en a parlé, enfin, ils en ont parlé, j'y étais pas dans le dernier upload, donc je vous laisserai aller écouter ça, l'upload qui sera publié au moment où on enregistre cet épisode, qui sera publié le 11 avril, donc juste demain, ils l'ont déjà enregistré. Il semblerait que Free Mobile ait effectivement de gros problèmes. Pour résumer, c'est le début, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des plâtres à essuyer, moi j'y suis pas allé un petit peu pour cette raison, c'est pas inutilisable non plus, il y a des gens qui ont des expériences un petit peu différentes, certains y arrivent moins bien que d'autres, enfin c'est, pour certains ça marche moins bien que d'autres, Free a annoncé qu'ils allaient régler les problèmes à la mi-avril, bon, c'est un petit peu normal que ça se passe pas bien. Tant que c'est pas l'apocalypse et qu'ils ne doivent pas rompre leur contrat et que l'État ne doit pas leur reprendre leur licence, ce qui est peu probable, c'est ce qu'on pouvait imaginer avec Free, quoi. Ça, c'était comme ça pour les abonnements ADSL au début, c'est comme ça pour Free Mobile. Moi, ça me surprend pas. Ok, bon, cette toux discrète nous indique que personne n'a rien à dire sur le sujet.
Écoute, c'est pas Free, hein. Ça m'énerve le fait qu'on en parle.
D'accord.
Non, mais il faudrait pas que ça remette en cause le contrat d'itinérance avec Orange, quoi. Ce serait quand même très très embêtant.
C'est vrai.
Je peux rajouter une petite news, si
mais
tu
vas-y,
permets.
Avec plaisir.
Ouais, parce que il y a une triste nouvelle, en fait, on a appris le décès de Jack Tramiel.
Oui, Tout à fait. Oui.
Donc, je pense qu'il faut, il faut le noter. Jack Tramiel, c'est le fondateur de Commodore, voilà, et de l'Atari ST aussi, donc le créateur, le concepteur avec ses équipes de l'Atari ST, lorsqu'il a quitté Commodore, voilà. Donc il est décédé à l'âge de 83 ans.
Ouais.
Alors, et
déporté à Auschwitz, le monsieur.
Voilà, exactement, tout à fait. C'est un rescapé des camps de la mort. Il a commencé sa carrière aux États-Unis en tant que chauffeur de taxi. Et puis, il s'est spécialisé dans les calculatrices électroniques, au même titre qu'HP d'ailleurs.
Ouais.
Et puis, en 84, donc, il crée l'Atari ST, le fameux concurrent de l'Amiga. Donc voilà, il est décédé, je crois que c'était dimanche, à l'âge de 83 ans.
Ouais.
Donc pour beaucoup d'entre nous, les plus anciens, eh bien ça évoque beaucoup beaucoup de choses, Commodore et Atari.
Ah, ça c'est sûr. Disons que les plus jeunes ne connaissent pas, mais c'était
non,
un
non,
petit
peu non,
je
connais le... pas du tout, non.
C'était un petit peu le Mac contre le PC de l'époque, hein. Moi j'étais férocement Amiga. Ah, il y avait des gens qui étaient férocement Atari ST.
Et j'étais Atari ST.
Terrible. Ah, c'était la bonne époque. Oui, et ben cette news était effectivement sur le Reddit du Rendez-vous Tech, sur reddit.com/r/rdvtech. N février nous l'avait noté là-bas. Il avait aussi ajouté la news sur Facebook et Instagram. Il y en a d'autres qui sont là-bas. S'il y a quelques infos qui nous ont échappé, vous les trouverez peut-être sur le Reddit de l'émission. Et le lien est bien sûr dans les notes de l'émission sur le blog, sur nowatch.net. Quelques autres infos rapidement. Pinterest, donc troisième réseau social. L'Angleterre se met à tout surveiller en temps réel comme Big Brother. Le Jobs Act, qui va permettre le financement des startups aux États-Unis par des trucs comme Kickstarter. Ça va être officiellement possible de financer une startup en laquelle on croit. Jusqu'à maintenant, on s'était limité à 500 investisseurs. On pourra aller beaucoup plus loin. Ça, c'est en tout cas aux États-Unis. Les serveurs de RIM, donc de BlackBerry, gèrent désormais Android et iOS. Incroyable.
Wow.
Apple demande des changements chez Foxconn, plus d'overtime forcé, plus de, enfin bon, il y a plein de changements qu'ils ont demandé, qui risquent d'avoir des conséquences sur l'industrie entière. Entre parenthèses, on n'a toujours pas demandé des comptes aux autres acteurs de l'industrie qui font toujours travailler les petits Chinois un petit peu plus qu'ils ne devraient, etc., etc. Il y a
plein
d'infos.
Chez Foxconn, hein, d'ailleurs, entre parenthèses.
Bah oui, oui, tout à fait. Plein d'infos. C'était, ce qui est marrant sur cette histoire, c'est que la réaction des ouvriers de Foxconn, enfin, bon, de certains ouvriers, bien sûr, c'est que quand ils ont annoncé que Apple leur avait demandé de ne plus gérer l'overtime forcé, de ne plus imposer l'overtime, et qu'ils allaient réduire le nombre d'heures d'heures supplémentaires maximum par mois, mais sans réduire le salaire, c'est-à-dire qu'ils allaient augmenter le tarif payé pour chaque heure d'heures supplémentaires. Certains des employés n'étaient pas contents, ils ont exprimé leur inquiétude parce qu'ils se sont dit « mais c'est pas possible, si on travaille moins, on va être payé moins, on est là pour bosser, on n'est pas là pour rigoler, donc nous on est super inquiets parce qu'on a peur de gagner moins d'argent avec vos conneries ». Donc bon, c'était pas le genre de réaction auquel on serait forcément attendu, mais c'était intéressant. A priori, ça sera pas le cas. Ils ont bien exigé que les tarifs soient augmentés pour que le salaire global reste au même niveau en travaillant moins. Donc c'est travailler moins pour gagner autant. Voilà. Bon, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va conclure l'émission. je vais donner.
Ça sent la présidentielle quand même.
Hein. Ah, un petit peu, oui, on n'en est pas loin, c'est vrai. Je vais donner à mes deux camarades l'occasion de nous dire où on les retrouve sur l'internet quand ils ne sont pas dans le rendez-vous tech. Dites-moi tout, à commencer avec le suspense, Lionel!
Ah, donc, eh bien, écoutez, vous me retrouvez sur Twitter. C'est mon Twitter, donc c'est itislionel, itislionel. Voilà, suivez-moi, envoyez des messages, etc. Je réponds et puis je serai content de vous suivre également.
Super, merci Lionel. Et maintenant, moi, c'est à Yann.
Pour moi, ça n'a pas changé. C'est toujours Yann YA2NALT sur Twitter. Je suis le seul à trouver la nouvelle interface de Twitter vraiment bizarre.
Enfin, je sais pas, j'utilise souvent la zone recherchée pour taper mon tweet. Et ça marche, je sais pas, je trouve vraiment qu'elle est... non. Enfin,
quand tu dis la nouvelle, tu veux dire celle qui a 2 ou 3 mois, c'est ça? Ou 4 mois?
Ouais.
D'accord, ok.
Ouais. Mais je sais pas, je la trouve vraiment bizarre. Mais en tout cas, oui, ça n'a pas changé, c'est toujours Yann Allais sur Twitter. C'est là que je suis le plus actif.
Merci Yann. Si vous voulez suivre nos camarades, c'est donc là-bas que vous pouvez le faire. Les liens vers les réseaux sociaux seront aussi sur le blog de l'émission, enfin sur l'article de l'émission. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire sur iTunes. Ça nous aide toujours à remonter dans les classements. Donc c'est toujours apprécié et ça aide d'autres personnes à nous découvrir. Pour moi, les liens vers les réseaux sociaux seront aussi sur nowatch.net/RDV. C'est là que vous trouverez tous les épisodes de l'émission. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous pourrez aussi retrouver, comme je le disais, les liens de l'émission et nous dire si on a dit des bêtises, nous dire ce que vous pensez de Google Flan. Hein, par exemple, si vous y croyez ou pas, si
tu lâcheras pas l'affaire, toi. Hein. C'est incroyable. Toi qui croyais à fond à OnLive et ces trucs complètement invraisemblables, alors
Ça marche OnLive.
Ouais, ça marche vachement. Ouais.
Attends, je l'ai testé moi-même, donc si. Écoute, on fera un jour où on se rencontrera, je te montrerai que ça marche directement chez moi, devant tes yeux, comme ça tu pourras pas le nier. Donc comme je le disais, c'est la fin de l'émission, mais on sera de retour dans 2 semaines évidemment pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une très bonne vie tech avec vos appareils qui existent bien et que vous pouvez tenir dans nos mains, dans vos mains. On remercie la chatroom d'avoir été présente, on vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao à tous.
Salut.
Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.